La revue de presse internationale de Camille Magnard. Bonjour Camille.
Bonjour Julie.
Le Nicaragua vit depuis 3 mois au rythme de la contestation populaire qui exige la démission du président Daniel Ortega, au rythme également d'une répression meurtrière qui a culminé ces dernières heures, on l'entendait dans le journal, dans la ville rebelle de Masaya.
Oui, Masaya qui se trouve à 37 kilomètres de la capitale Managua, mais depuis hier, l'armée et les paramilitaires envoyés par le président Ortega bloquent la route au kilomètre 14, nous expliquent les reporters du journal nicaraguayen El Confidencial. La presse et le monde tenus à bonne distance de cette offensive par laquelle les hommes d'Ortega ont juré de nettoyer les quartiers insurgés à n'importe quel prix. Les reportages publiés ce matin s'appuient donc sur les témoignages d'habitants qui racontent l'arrivée des groupes paramilitaires armés de Kalachnikov, de M16, armes lourdes donc, armes de guerre, mais aussi de pelles mécaniques pour lever une à une les barricades de fortune. Les tirs à balles réelles, les 2 morts, une femme et un policier, les dizaines de blessés. Tout cela donc pour mater Monimbo, le quartier indigène de Masaya, celui qui menait la contestation depuis avril et résistait encore aux tentatives de mise au pas jusqu'à hier soir. Donc Daniel Ortega, l'ancien guérillero sandiniste, l'avait annoncé, et c'est le journal espagnol El País qui nous le rappelle, il fallait que tout foyer de rébellion soit écrasé avant demain, jeudi, jour où le Nicaragua doit célébrer les 39 ans de la révolution sandiniste. L'anniversaire coïncide donc avec un pic sanglant dans la répression qui a fait près de 300 morts en 3 mois. En fin de semaine dernière, c'est la révolte estudiantine à l'Université nationale de Managua qui a été matée, et aujourd'hui donc Masaya. Mais qu'on ne s'y trompe pas, déclare l'historienne et ancienne guérillera sandiniste, elle aussi, Dora Maria Telles, dans une longue interview au Confidencial de Managua. Ce qui se déroule là-bas, ce n'est pas une guerre civile, mais c'est une guerre menée par le clan Ortega et celui de sa femme, Rosario Murillo, contre le peuple nicaraguayen. Un groupe mafieux, criminel, armé, qui fait mener sa contre-offensive par des paramilitaires au comportement d'armée d'occupation, passant les rues au peigne fin et tirant sur tout ce qui bouge. C'est exactement ce qui vient de se passer à Masaya, nous dit Dora Maria Telles. Elle dit aussi ne plus espérer grand-chose du dialogue national mené avec la médiation de l'Église catholique et paralysé depuis 15 jours. Rien non plus des appels au cessez-le-feu lancés par l'ONU. Alors que peut-il se passer à présent? Il faut espérer une accalmie dans la répression avec ces cérémonies anniversaires demain de la révolution nicaraguayenne de 1979. Pour l'historienne, la lutte civique et populaire doit se poursuivre, tenir bon jusqu'aux élections prévues en mars prochain. D'ici là, Daniel Ortega ne pourra pas continuer à tuer autant de monde que ces derniers mois, veut continuer à espérer l'ancienne guérillera.
Pendant ce temps, l'Europe et le Japon s'affirment en champions du libre-échange à rebours des barrières douanières érigées par Donald Trump à travers le monde.
Et l'on ne peut pas s'empêcher de penser ce matin avec le quotidien communiste italien Il Manifesto que dans ces élans, sans les élans protectionnistes de Donald Trump, cet accord de libre-échange qui a été signé hier entre Bruxelles et Tokyo, il aurait été beaucoup plus contesté à travers l'Union européenne. Mais puisqu'il s'agit d'affirmer notre dissidence, notre contre-offensive face au repli commercial américain, alors on ne semble pas prêt de revivre les débats qui avaient entouré le CETA passé avec le Canada l'an passé, ou bien le TAFTA, l'éternellement repoussé projet de traité commercial avec les États-Unis. Le JEFTA, ce petit nom que l'on donne au nouveau traité de libre-échange euro-japonais, c'est bien mieux que le TAFTA, nous affirme le magazine allemand du milieu des affaires. Le Wirtschaftswoche, qui traduit par le courrier international, cite l'économiste de la London School of Economics, Osuk Lee Makiyama. Le Japon, c'est un marché très intéressant pour les entreprises européennes qui vont, grâce à l'accord, pouvoir concourir sur les marchés publics nippons. L'économie japonaise, c'est un environnement stable, profitable, dénué d'interventions arbitraires de la part de l'État. Un rêve libéral, donc, qui, nous assure-t-on, va plus bénéficier à l'Europe que ne pourrait faire le TAFTA avec l'Amérique, car nos deux économies sont plus complémentaires. En gros, les Japonais sont en demande de vin, de fromage et de produits de luxe, et nous allons en échange leur ouvrir grand notre marché automobile.
Reste à savoir, Camille, si cet accord de libre-échange aura un quelconque effet sur l'autre grande inquiétude au Japon, la pénurie de ninjas.
C'est à lire dans le New York Post, le berceau de cette caste de combattants traditionnels japonais, espions et mercenaires. La ville d'Iga, près de Kyoto, n'arrive plus a recruté de personnes suffisamment entraînées aux arts martiaux pour son festival de printemps. Être ninja pour les touristes, ça peut pourtant rapporter plus de 80 000 euros par an, nous explique un reportage de la radio américaine NPR. Sans compter que le chômage est important dans la région, mais pour être un vrai ninja assermenté, il faut avoir accompli une formation longue et éprouvante. Et puis, la population d'Iga, petite bourgade rurale, n'en finit pas de diminuer, comme celle de tout le Japon d'ailleurs. Les apprentis ninjas ne courent donc pas les rues et pourtant la demande explose. L'archipel voit son activité liée au tourisme augmenter de 20%. Il faut donc avoir des spectacles à leur offrir, des choses à leur vendre. L'État japonais subventionne même des formations de ninjas, mais rien n'y fait pour le moment. La presse internationale ce matin ne dit pas si avec le JEFTA, nous allons bientôt pouvoir exporter vers le Japon des ninjas made in Europe.
Merci beaucoup Camille Magnard. Bonne journée.